Les Jeux Olympiques modernes. De 1876 à 1881, des archéologues allemands mettent au jour les monuments, les statues et l'enceinte sacrée d'Olympie. Un jeune sportif français s'étonne que la France ne fasse rien pour retrouver aussi les splendeurs du passé de la Grèce antique. Il s'appelle Pierre de Coubertin. Le 25 novembre 1892, il annonce à la Sorbonne, devant un auditoire imposant, sa volonté de redonner vie aux anciens Jeux olympiques interrompus depuis 15 siècles. Le 16 juin 1894, toujours à la Sorbonne et devant cette fois un public de très haute personnalité composé d'ambassadeurs délégués de 12 pays, soit environ 2000 personnes, un hymne aux Olympiades est exécuté. 7 jours plus tard, Pierre de Coubertin annonce le rétablissement des Jeux olympiques. Le Comité international olympique, composé de personnalités, est constitué au milieu de l'année suivante. Le 6 avril 1896, à Athènes, s'ouvre, grâce aux contributions des Hellènes et à la générosité d'un Grec d'Égypte, la première Olympiade des temps modernes. Pierre de Coubertin note ainsi le quadruple avantage du rétablissement des Jeux olympiques. Premier avantage, la mise en relief des sports modernes, en les faisant bénéficier du prestige de l'Antiquité. Deuxième avantage, le rassemblement de tous les sports en les obligeant à collaborer les uns avec les autres pour le progrès de l'éducation physique. Troisième avantage, la réunion de toutes les nations dans un effort d'émulation infiniment utile au bien général. Et enfin, quatrième avantage, le précieux appui des lettres et des arts aux manifestations sportives pour le rétablissement du culte de la beauté et de l'eurythmie qui dominait le gymnase grec.
N'oubliez pas, le plus important, c'est de participer. Que cherche réellement Pierre de Coubertin en rétablissant les Jeux olympiques? Fidèle à l'héritage de l'Antiquité, il voit dans l'olympisme le moyen de façonner une aristocratie, au sens étymologique du mot qui signifie « les meilleurs », de former une élite. Mais réaliser des prouesses physiques ne suffit pas si cela ne s'accompagne pas d'une morale, d'une éthique chevaleresque du désintéressement. D'où la célèbre formule « Le plus important, c'est de participer ».
Depuis leur renaissance, les Jeux olympiques ont lieu tous les 4 ans et voient s'affronter tous les athlètes de la planète sur les terrains les plus divers comme le dojo, la piste d'athlétisme, le terrain de basket, le parcours d'équitation, etc., lors d'épreuves collectives ou individuelles au nombre d'une 50aine environ, cette liste évoluant à intervalles réguliers. Depuis 1924, il faut aussi compter les Jeux olympiques d'hiver, avec ses épreuves de ski, de luge, de bobsleigh, de patinage, de biathlon, etc. Les villes organisatrices sont désignées par le Comité international olympique, composé de 115 membres recrutés ou élus parmi les athlètes actifs ou retraités, les présidents de fédérations sportives internationales ou d'organisations reconnues par le comité. Comme le rappelle le récent échec de Paris 2012, ce système est néanmoins de plus en plus contesté. De nombreuses personnes dénoncent les collusions entre les membres des organismes sportifs internationaux et le monde politique et des affaires. Des voix s'élèvent contre des pratiques situées aux antipodes de l'idéal sportif de Pierre de Coubertin, comme la corruption, le profit ou le dopage. Le sport après 1945. Les progrès réalisés par la presse au milieu du XXe siècle aident considérablement à la diffusion des pratiques sportives. Les retransmissions de courses, de matchs, le nombre grandissant des journaux consacrés au sport comme le sont l'Auto, le Miroir des sports, l'Écho des sports, etc., élargit le public des intéressés et, bien sûr, favorise son expansion au sein de toutes les couches sociales. Une autre conséquence est l'écart de plus en plus marqué entre professionnels et amateurs. Le tournant est vraiment pris après la Seconde Guerre mondiale et le sport s'impose alors comme phénomène social. Son emprise s'affirme dans le domaine politique et diplomatique. Avec l'ordonnance du 28 août 1945, l'État délègue ses pouvoirs aux fédérations pour tout ce qui concerne le contrôle et l'organisation des compétitions. Lors des premières compétitions d'après-guerre, les pays vaincus, Allemagne et Japon, sont exclus. Le sport devient également un enjeu des idéologies dans les années 1950. Durant les 40 années de la guerre froide, les sportifs américains affrontent ceux de l'URSS dans la course aux médailles. Durant les années 80, les compétitions internationales deviennent également pour les pays en voie de développement un moyen de revendiquer leur existence, leur identité.
N'oubliez pas, Où sont les femmes ? Les femmes ont longtemps été tenues à l'écart des sports de compétition. On prétendait que le corps féminin était incapable de supporter l'endurance, car sa principale fonction est la procréation. Il y avait également un argument social et moral à cette mise à l'écart. La femme a une place à tenir au sein de son foyer, et toute pratique sportive féminine est considérée comme exhibitionniste. Les premières sociétés sportives féminines n'apparaissent qu'à partir de 1907 et concernent la gymnastique et la natation. Le sport devient alors un moyen d'émancipation. Les Olympiades féminines de 1922 ne sont pas des Jeux olympiques traditionnels et sont d'abord perçus comme une provocation. « Il n'y aura pas d'Olympiade femelle », déclare Pierre de Coubertin. Présente sur le stade Pershing, construit par les militaires américains et pas très éloigné du terrain où s'entraîne l'école de Joinville, elle s'impose cependant à Monte-Carlo, lors du premier meeting international d'éducation physique, puis aux Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928.
Les grandes compétitions. Les joies du sport tiennent à sa pratique, mais aussi au fait de suivre les grandes compétitions et l'évolution des grands sportifs. Laissons-nous tourner la tête par le tennis à Roland-Garros. Allons voir darder les rayons des vélos du Tour de France. Suivons pied à pied la Coupe du monde de football et corps à corps le tournoi des Six Nations. Roland-Garros. Roland-Garros reste l'un des tournois majeurs de la saison de tennis puisqu'il correspond à la deuxième levée des tournois du Grand Chelem, le plus prestigieux. C'est en 1891 qu'a eu lieu la première édition du championnat de France international de tennis à Paris, la première édition de celui des femmes a lieu en 1897. Le tournoi se tient alternativement sur les installations du Racing Club de France et du Stade français jusqu'en 1927, avant que ne soit créé le stade Roland-Garros en 1928 pour les besoins de la Coupe Davis. Le nom du stade a été choisi en hommage au pionnier de l'aviation Roland-Garros, décédé dans un combat aérien en 1918. Il regroupe au total 24 cours. Roland-Garros est le premier des quatre tournois du Grand Chelem à devenir open en 1968, c'est-à-dire ouvert aux joueurs amateurs et professionnels, car jusque-là les tournois étaient strictement réservés aux joueurs amateurs. Il se joue sur terre battue, en trois manches gagnantes pour les hommes et deux pour les femmes. Cette surface, dite lente et parfois l'absence de jeu décisif dans la dernière manche, peuvent conduire à des rencontres fleuves de plusieurs heures.
Le saviez-vous ? Le cinquième mousquetaire. Tout le monde a entendu parler des quatre mousquetaires, la fameuse équipe de France de tennis de la fin des années 1920, composée de Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste. Le quatuor domine alors toutes les compétitions internationales de tennis, s'illustrant notamment en Coupe Davis avec 6 victoires consécutives de 1927 à 1932. Mais sait-on que, comme chez les vrais mousquetaires, il y en avait un supplémentaire ? Finaliste à Roland-Garros en simple en 1931, puis en double l'année suivante, associé à Marcel Bernard, Christian Boussu avait été appelé dans l'équipe en 1929. Il a son nom gravé sur chacune des quatre Coupes Davis remportées jusqu'en 1932. Sans jamais avoir joué aucun match, l'excellente santé de ses partenaires l'ayant laissé sur le banc des remplaçants.
Depuis 1981 sont aussi décernés pendant le tournoi les prix Orange, Citron et Bourgeon. Une autre nouveauté apparaît en 2006. Le tournoi débute désormais le dimanche avec 12 matchs en simple joués sur les trois courts principaux. Parmi les joueurs emblématiques de l'ère moderne figurent Björn Borg, joueur suédois, recordman des victoires avec pas moins de 6, Mats Wilander, suédois également, Yannick Noah, dernier vainqueur français en 1983, le tchécoslovaque Ivan Lendl, Jim Courier et André Agassi, joueur américain, Gustavo Kuerten, brésilien, et Rafael Nadal, joueur espagnol. Côté femmes, les joueuses américaines Chris Evert Lloyd, Martina Navratilova et Monica Seles, l'allemande Steffi Graf, l'espagnole Arantxa Sanchez et Justine Hénin, joueuse belge. Le Tour de France. Le 20 novembre 1902, Géo Lefebvre et Henri Desgranges créent le Tour de France cycliste et entrent dans l'histoire. Géo Lefèvre est l'instigateur de l'épreuve et Henri Desgranges celui qui a cru, qui l'a dirigé d'une main de fer et a su lui donner toute sa dimension et sa renommée. À l'origine, la finalité était de concurrencer les courses de voitures et Bordeaux-Paris. 60 coureurs participent au premier Tour de France qui débute le 5 juillet 1903 à 15h16. Ce premier tour comprend seulement 6 étapes reliant Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Les médias contribuent déjà à son succès, mais il faut attendre les années 1960 pour assister à des reportages télévisés en direct. Au firmament du Tour, comme le surnomment familièrement ses millions de fans, brillent notamment les étoiles de Jacques Anquetil et Bernard Hinault pour la France, Eddy Merckx pour la Belgique, Miguel Indurain pour l'Espagne, tous vainqueurs à 5 reprises, ainsi que celle du coureur américain Lance Armstrong qui comptabilise 7 victoires, c'est toujours un record à battre, record un peu terni toutefois par des soupçons de dopage.
N'oubliez pas, vas-y Poupou! Éternel second face à son grand rival Jacques Anquetil au cours des années 1960, Raymond Poulidor, ou Poupou, comme on le surnomme affectueusement, occupe encore la première place dans le cœur des Français. Déclenchant des encouragements nourris lors de son passage dans le peloton, il remporta le Tour d'Espagne et 7 étapes du Tour de France, sans jamais porter le maillot jaune. Ironie du sport.
La Coupe du monde de football. La première Coupe du monde de football se déroule en Uruguay en 1930. Bien que plusieurs pays européens en aient fait la demande, la FIFA, Fédération internationale de football amateur, confie l'organisation aux pays champions olympiques. 13 pays participent à cette première édition, dont seulement 4 pays européens. Mexique, Chili, Argentine, Brésil, Bolivie, Pérou, Uruguay, Paraguay, États-Unis, France, Yougoslavie, Roumanie, Belgique. Le projet existait depuis 1904. La cadence des Coupes du monde de football est fixée en alternance avec les Jeux olympiques. À l'époque de la création de la Coupe du monde, presque toutes les équipes présentaient les mêmes formations qu'aux Jeux olympiques, car elles avaient un statut amateur.
N'oubliez pas, un petit coup de main ? Élu meilleur joueur du siècle devant Pelé et Michel Platini, à la suite d'un vote international sur Internet, El Pibe de Oro, le gamin en or en français, s'illustra en équipe nationale d'Argentine, où il compte 91 sélections et 34 buts. Il remporta la Coupe du Monde 1986 en gagnant contre la RFA en finale. En quart de finale contre les Anglais, il inscrivit l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde en partant de son camp, passant en revue toute la défense anglaise avant de tromper le gardien. Mais cet exploit est aujourd'hui presque occulté par le souvenir du premier but, marqué de la main par Maradona, le ballon ayant été providentiellement propulsé dans les filets. « Par la main de Dieu », expliquera effrontément le joueur.
Quintuple vainqueur de l'épreuve en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002, le Brésil est suivi par l'Italie qui comptabilise 4 victoires, l'Allemagne qui en comptabilise 3, l'Argentine 2, l'Uruguay 2, puis l'Angleterre et la France qui en comptabilisent une. Finaliste malheureux de la compétition en 2006, les Bleus ont accroché une première étoile à leur maillot en 1998, battant en finale les Auriverdes, les Verts et Or de Ronaldo, grâce à un doublé de Zinedine Zidane et à un but d'Emmanuel Petit. Le tournoi des 6 nations. Le tournoi des 6 nations est une compétition de rugby à 15, opposant les équipes les plus importantes de l'hémisphère nord, l'Angleterre, l'Écosse, la France, le Pays de Galles, l'Irlande, et depuis 2000, l'Italie. Il succède à celui dit des 5 nations, lequel faisait lui-même suite à un tournoi à 4. Le tournoi des 5 nations avait été interrompu durant la Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1920. Les principes du tournoi sont les suivants. L'équipe qui gagne en battant tous ses adversaires réalise le grand chelem. Celle qui le perd décroche virtuellement la cuillère de bois. Tradition oblige, la Calcutta Cup, qui est mise en jeu entre l'Angleterre et l'Écosse, et la triple couronne qui est décernée par les journalistes britanniques à la formation qui s'impose dans un mini-championnat à 4 entre le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande, sont toujours attribuées. Plus récent, le Millennium Trophy récompense le vainqueur du match entre l'Angleterre et l'Irlande et le trophée Eurostar, le vainqueur du match opposant la France à l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui se trouve en tête des bilans du tournoi, avec 25 victoires, dont 12 grands chelems, devant le Pays de Galles, qui comptabilise 24 victoires, dont 10 chelems. La France avec 16 victoires, dont 8 chelems. L'Écosse et ses 14 victoires, dont 3 chelems. L'Irlande avec 11 victoires, dont 2 chelems. Et l'Italie, toujours en attente de son premier succès dans l'épreuve.
Le saviez-vous, Monsieur Rugby? Compétiteur et meneur d'hommes né, le troisième ligne L. Jean Prat était réputé pour sa vaillance et son sens de la formule. Il faudra une fracture du péroné pour lui faire quitter le terrain contre le Pays de Galles en 1950. En 1949, à Colombes, la France mène ainsi de 2 petits points face au Pays de Galles à 5 minutes du coup de sifflet final. Prat, qui sent que ses partenaires commencent à flancher, les harangue alors par ces mots. « Ces Britanniques vous ont emmerdé pendant 100 ans. Vous pouvez bien tenir 5 minutes. » Et le 15 de France remporte le match. Honneur rarissime, Jean Prat fut porté en triomphe par ses adversaires gallois à la toute fin de sa carrière internationale et surnommé « Mister Rugby » par la presse britannique.